Il y a pas mal de choses qui sont plaisantes à l'œil, là, déjà, Amélie, voilà, non
je, hein, vois, je vois, en plus, mon plus grand amour. Une bouteille de champagne dans un superbe seau à champagne.
Voilà. Ça, c'est une belle promesse.
Je trouve que cette émission commence très fort.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bienvenue les amis à notre table du dimanche. Et bien voilà, comme à la maison, nous allons prendre le temps de découvrir notre invité à travers les plaisirs de la table, mais pas que. Alors aujourd'hui, je reçois une romancière qu'on aime autant que ses livres, il faut bien dire. Fine et pétillante comme une bulle de champagne, voilà, j'étais obligé de faire l'allusion, c'est Amélie Nothomb. Bonjour Amélie.
Bonjour Laurent.
On prononce le B, hein, c'est bien ça.
On prononce le B, absolument.
Amélie Nothomb.
Oui.
Soyez la bienvenue Amélie, on va faire ripaille, nous allons manger jusqu'à midi et demi. Et puis comme on le fait le déjeuner du dimanche, on va avoir de la visite aussi.
Chouette, alors on va recevoir une de mes grandes amies qui est écrivain et qui s'appelle Stéphanie O'Sheik. Elle est super sympa et elle a un talent fou.
Exactement, elle sera là sur les coups de midi et elle vient de faire un très beau livre qui sort prochainement qui s'appelle L'éloge du lapin.
C'est passionnant, elle est la sommité absolue du lapin, elle devrait occuper une chaire de lapinologie à la Sorbonne.
et voilà, et nous avons le critique gastronomique Emmanuel Rubin qui viendra mettre les pieds dans le plat tout à l'heure. On parlera champagne et sushi, forcément, parce qu'on a des choses à dire sur les sushis. Et je vous présente Amélie, celle qui va nous régaler aujourd'hui, c'est la chef Cathy Paraskive. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Chef du restaurant Ibrique, où on maîtrise une belle cuisine des Balkans.
On essaye en tout cas, oui, tout à fait.
Trois adresses dans Paris. Il y a Ibrique Kitchen, il y a Ibrique Café et Ibrique Deli, 9e, 10e arrondissement.
Waouh, je suis déjà fan, Cathy.
Si vous voulez déguster un très bon shawarma, c'est ce que j'ai fait cette semaine dans un des restaurants de Cathy. Je suis allé à l'Ibrique Deli.
Tout à fait, le petit dernier.
Où on mange un beau shawarma qui est bien équilibré.
Wow.
Et qui est très digeste, ce qui n'est pas le cas de tous les shawarmas.
Ah oui, normalement, un shawarma, si ça vous tombe sur le pied, vous êtes pied beau.
Vous avez un point commun avec Amélie Nothomb, Cathy. Vous avez passé les premières années de votre vie à l'étranger aussi, vous, hein?
Oui, tout à fait. Ouais. Je suis née en Roumanie pendant le communisme, donc à la douce époque de Ceausescu. Et je l'ai quittée quand j'avais 7 ans.
Et vous étiez au Japon les premières années de votre vie
Au Japon, et je m'en souviens terriblement bien. Et vous, Cathy, vous vous rappelez bien cette période aussi?
Oui, tout à fait. Ouais. Je me rappelle très, très bien de mon enfance.
Qu'est-ce qu'on mange avec Amélie Nothomb, alors, chère Cathy?
Aujourd'hui, on va préparer un lamené un petit peu revisité, parce que j'y ajoute un peu de stracciatella pour le côté gourmand.
Alors, le lamené, c'est, on va dire, un yaourt à la grecque, une sorte de yaourt qui a été égoutté, en fait.
C'est ça, exactement. Et ensuite, on l'assaisonne en fonction des familles, ça change. Pourquoi cette recette? Parce que j'aime bien un pied dans l'Orient, un pied dans l'Occident. J'aime bien, en fait. C'est les Balkans, en fait.
C'est les Balkans, c'est le trait d'union, effectivement, exactement. Comme vous le dites dans votre livre Ibrique, entre le Grand Occident et le Grand Orient.
C'est ça, exactement. Donc la route de la soie, on peut donc les Ottomans de l'époque qui ont colonisé une très grande partie de l'Occident aussi. Voilà, donc c'est un mélange culturel qui est relativement, enfin, très intéressant selon moi.
Vous connaissez Amélie la cuisine des Balkans un peu ?
Mais absolument pas. Et je regarde simplement les ingrédients qui sont les vôtres et je salive mais comme une malade. Je suis le chien de Pavlov là.
Expliquez-nous Cathy ce qu'on a devant sur ce beau plan de travail. On n'est pas en studio. On est dans un endroit avec une cuisine bien équipée, une salle à manger juste à côté. Hein, vous confirmez, Amélie ?
C'est magnifique ici.
Alors, on commence avec ce labné, ce fameux labné avec des haricots verts, figues, amandes fumées. Ensuite, on va continuer avec toujours un plat végétarien, hein, bien sûr. Des champignons de Paris, crème, des pleurotes, hein, puisqu'on est en début de saison. Et j'aime beaucoup les champignons, en fait. Voilà.
J'adore les champignons.
On adore les champignons. Avec une polenta qu'on va finalement traiter un petit peu comme un gnocchi. Donc, c'est vrai que nous, dans les Balkans, on mange beaucoup de polenta qui remplace souvent le pain. Voilà.
Semoule de maïs, hein, qu'on va transformer comme la purée de pommes de terre donne naissance à un gnocchi. Là, elle va faire un beau gnocchi, cette polenta.
Exactement, et qu'on va venir poêler pour donner plus de gourmandise, hein, la nourrir en beurre. Et pour finir, le gâteau à la pistache, qui est quand même notre best-seller. Pistache et rose d'Iran.
Waouh, j'ai bien fait de venir.
Hein, on est d'accord.
Oh là là.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, peut-être, Cathy? Dites-nous s'il y a des choses à faire.
Je vous propose d'écouter des haricots verts. Hein.
J'adore faire ça.
Qu'est-ce que vous faites le dimanche, en général, Amélie?
Alors, c'est pas du tout glamour. Généralement, le dimanche, je fais le ménage. mais un ménage très spécial puisque pour me donner le courage de faire le ménage, je mets du métal, de la musique métal. On se croirait au Hellfest chez moi parce que je mets ça à plein volume, mais mes voisins me détestent. Mais ça me donne une énergie folle. Du coup, je termine ça en dansant. Et le résultat, c'est qu'il fait très propre chez moi. Donc, j'ai envie de recommander à toutes les ménagères de l'univers d'écouter du métal.
Vous avez vécu dans de nombreux pays, Amélie. On le disait, le Japon, la Chine, le Laos. Est-ce que la cuisine a compté dans votre façon d'apprivoiser, d'appréhender tous ces pays ?
Bien sûr. Un pays dans lequel on se sent bien, c'est d'abord un pays où on mange bien. Je suis née au Japon où j'y ai grandi. Là, je dois dire que j'étais très heureuse. Je mangeais surtout la cuisine japonaise populaire. Je pense particulièrement à l'okonomiyaki, qui est l'omelette japonaise, dont j'étais férue. À l'âge de 5 ans, j'ai quitté le Japon pour la Chine. Ça a été pour moi un vrai choc, mais une des choses qui m'a permis d'aimer quand même la Chine, c'était la cuisine chinoise. Même sous le maoïsme, on n'avait pas réussi à détruire le génie de la cuisine chinoise.
Donc, elle faisait de la résistance.
Elle faisait de la résistance. Et donc, même si la vie était très dure en Chine, il y avait quand même moyen de manger des merveilles gastronomiques.
Alors, à 17 ans, après tous ces voyages, vous revenez en Belgique, qui est le berceau de votre famille. C'est ce que vous racontez dans votre très beau dernier livre, Premier sang, on va en parler. Quel effet ça fait de retrouver ses racines comme ça, après tous ces voyages autour du monde ?
Ça a été très paradoxal, parce qu'en même temps, je retrouvais des choses dont mes parents m'avaient tellement parlé que j'avais l'impression de les connaître. Et en même temps, c'était de l'inquiétante étrangeté parce que j'en étais véritablement étrangère. Quand j'ai commencé l'université de Bruxelles, les jeunes ne m'adressaient pas la parole. J'étais trop bizarre, je ne maîtrisais pas les codes, je ne savais pas comment il fallait s'habiller, je ne savais pas comment il fallait parler. Finalement, c'est grâce aux frites que je me suis sentie assez vite chez moi en Belgique. Les frites, ça, j'ai tout de suite adopté.
Vous avez un rapport, on va dire, quasiment quotidien avec l'écriture. Oui. Il n'y a pas eu une journée de grève, vous avez posé le stylo, ça n'est jamais arrivé, ça ?
Alors, ces 35 dernières années, il y a eu exactement une journée où je n'ai pas écrit. C'était un dimanche matin en 97. Et ça a été une véritable catastrophe. J'avais décidé d'essayer le dimanche matin d'une personne normale, de lire au lit un excellent livre avec des croissants. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'ai rejoint l'âge de 13 ans et demi, le pic de la crise pubertaire. J'étais dans le néant, j'avais des boutons, c'était affreux.
Et vous écrivez, j'allais dire, un roman par an, mais même plusieurs parce que...
Bien plus. Pour vous donner une idée de la disparité des chiffres, Premier sang est le 30e livre que je publie, mais en vérité, c'est le 100e que j'ai écrit.
Très très beau livre sur votre papa, Premier sang, qui vient de paraître chez Albin Michel, qui est déjà un succès, comme tous les livres d'Amélie Nothomb. C'est un livre particulier, parce que vous avez perdu votre papa le premier jour du confinement.
C'est ça, il est mort le premier jour du confinement, et comme j'étais confinée à Paris, il était hors de question que je me rende à ses funérailles en Belgique. Donc ça a été la double peine, en même temps l'horreur de perdre mon père, et en même temps la consternation de ne pas pouvoir aller lui dire au revoir lors de la cérémonie. Du coup, j'ai complètement raté mon deuil. Et ce livre que j'ai commencé à écrire 6 mois après sa mort est venu pour justement réparer ce deuil, le vivre quand même. L'idée, c'était de ressusciter mon père en lui donnant la parole pour que je puisse lui dire au revoir.
On va en reparler juste après la pause de ce très beau livre, Premier sang, chez Albin Michel. On vient de finir d'écouter les haricots, Cathy.
C'est très bien. Vous avez fait un très bon travail.
On s'en est bien sorti. Donc, je rappelle à nos auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, aujourd'hui, au menu, un beau labneh avec des haricots verts et des figues et des gnocchis de polenta en plat de résistance pour Stéphanie Hochet, qui nous retrouvera tout à l'heure avec Amine Le Tombe. Et Emmanuel Rubin n'est pas loin non plus. Bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà à la table du dimanche avec Amélie Nothomb. En cuisine, notre chef Cathy Paraskive qui poursuit sa recette. On en est où, Cathy, de cette belle recette ?
Eh bien, on est pas mal là. On vient de finir le labneh et on est en train de toaster le pain de mie qui va servir de support. On a coupé les figues, les haricots verts ont été équeutés à la perfection.
Par Amélie Nothomb, merci.
On avance.
On est sur le plan de travail avec beaucoup d'ingrédients. Et vous m'avez un petit peu délaissé. Vous êtes où, là, Amélie ? Qu'est-ce qui se passe ?
Mais là, vous avez un rival terrible en la personne d'une bouteille de champagne sublime qui, en plus, s'appelle l'Énéide. Mais alors là, vous me prenez par les sentiments. C'est tout ce que j'aime, le champagne et la mythologie. Vous me connaissez bien, cher Laurent.
L'Énéide, alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ?
L'Énéide, c'est l'épopée de Virgile. Virgile trouvant intolérable que la Grèce et son épopée en la période, en la personne d'Homère avec l'Iliade et l'Odyssée, décide d'écrire l'Iliade et l'Odyssée romaine, et ce sera l'Énéide, chef-d'œuvre presque équivalent en splendeur à l'Iliade et l'Odyssée. Et il part des ruines de Troie exactement comme Homère, sauf qu'il essaie de nous faire croire que c'est une histoire romaine et pas une histoire grecque. C'est un rigolo, Virgile. Est-ce que vous m'autorisez à le verser dans les verres ?
Mais je vous autorise parce que je sais que vous aimez bien faire ça, Amélie. On va parler de votre roman Premier sang d'Amélie Nothomb. Vous venez de publier donc ce roman qui raconte l'histoire de votre papa, diplomate, élevé à la dure, on va le dire, entre sa famille maternelle et sa famille paternelle. Et il va se retrouver au cœur d'une prise d'otage au Congo, bien avant votre naissance. Votre papa avait perdu son père à l'âge de 8 mois, et surtout élevé par ses grands-parents maternels. Il est envoyé en vacances chez les Nothomb, qui sont ses grands-parents paternels. Et donc, c'est vrai que c'est une éducation du rail, mais il le dit, enfin, c'est vous qui le dites pour lui, cette éducation du rail lui a permis de tenir pendant cette prise d'otage, j'ai l'impression.
C'est ça. Finalement, le fait d'avoir une éducation extrêmement dure, puisque chez les Nothomb, les enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans, n'étaient tout simplement pas nourris. On servait d'abord les grands et puis les plus de 16 ans. Et s'il restait quelque chose dans les plats, et généralement il ne restait rien dans les plats, eh bien que les enfants se débrouillent. Donc ce n'est pas une métaphore, les enfants crevaient de faim. Deux enfants de la bande sont tout simplement morts de sous-alimentation.
Mais ça m'a frappé en lisant votre livre, surtout que c'est très présent dans ce roman. Vous avez écrit Soif, je trouve qu'il aurait presque pu s'appeler Faim.
C'est vrai, parce que mon père crevait toujours de faim. Mon père était un bon vivant, ça se voyait, il était tout rondouillard, il adorait les plaisirs de la vie. C'est ça aussi que j'adore chez lui, c'est que mon père était un véritable héros alors qu'il n'en avait absolument pas le profil. C'était un homme délicat qui aimait le plaisir de la bonne chair, qui s'évanouissait à la vue du sang.
C'est vrai.
Qui était tout gentil en fait. Et pourtant, il a été un héros extraordinaire pendant cette prise d'otage qui a eu lieu quand il était un jeune consul au Congo en 1964. Il a été pris dans la plus grande prise d'otage du XXe siècle, celle de Stanleyville.
Mais qui a duré des mois.
Qui a duré 4 mois. Il a sauvé la vie. Bon, il y avait 1600 otages, parmi lesquels il a sauvé la vie de 1500 otages. Il y avait quand même eu des morts. Mais mon père n'avait qu'une seule façon pour protéger les otages, c'était de parler continuellement. C'est-à-dire que tous les matins, les rebelles prenaient leur kalachnikov et disaient « Bon, maintenant, on va tous vous tuer. » Et mon père disait chaque matin « Oui, mais auparavant, nous allons parler. » Donc mon père leur parlait, relançait la palabre. Et aussi longtemps que les rebelles étaient dans la palabre, eh bien, ils oubliaient leur kalachnikov et le meurtre était remis au lendemain. Il a tenu comme ça pendant 4 mois. Et ainsi, il a sauvé la vie de centaines de gens.
Il vous a raconté tout ça, votre papa ?
Il était extrêmement pudique. Je me suis renseignée par recoupement. J'ai rencontré la famille dont il parle. Et eux, par contre, étaient nettement plus disaires que lui. Et m'ont raconté comment on vivait au château, comment était papa. Papa, quand on lui posait des questions, il aurait tellement répugné à se plaindre qu'il disait toujours « tout est merveilleux, tout s'est très bien passé ». Mais même la prise d'otage, l'entendre, la prise d'otage, ça a été le plus beau moment de sa vie.
Oui, très, très positif,
c'est
toujours.
Ça.
Très, très optimiste, positif et enthousiaste.
C'est ça.
On va grignoter avec vous, Cathy. C'est une merveille que vous venez de dresser. Racontez-nous ce labné. Mais alors attention, là, c'est un labné dressé, c'est un labné du dimanche. Hein.
Mais c'est un labné pour les gens qui aiment se faire plaisir, effectivement, le dimanche, avec un joli dressage. Enfin, on essaye parce que le visuel est aussi important, à mon avis, que le...
Ah oui, on mange d'abord avec les yeux.
C'est le premier sens, quand même. Celui, apparemment, qui est le plus développé, c'est la vue.
Si on veut faire un labné à la maison, c'est simple. On prend un yaourt à la grecque, par exemple. Et l'idéal, c'est de l'égoutter quand même, par exemple, dans de la gaze ou quelque chose comme ça, pour qu'il perde son eau, son exudat.
Ouais, le plus important, en fait, quel que soit le yaourt grec, on essaye quand même de prendre du vrai yaourt grec. Hein. Ça, c'est le plus important. C'est quand même la base.
Et là, vous l'avez parfumé avec quoi ? Racontez-nous, alors.
Alors, moi, c'est vrai que je fais un labné un petit peu revisité parce que j'aime bien mettre un peu de stracciatella. Hop, et voici.
Oh là là, la stracciatella, alors il faut expliquer, c'est un petit peu une mozzarella qu'on aurait coupée.
Hein,
c'est le cœur de la mozzarella.
C'est le cœur, ouais, de la bufala.
Wow.
J'aime bien parce que c'est vrai que je trouve que le côté crémeux est intéressant et surtout, j'aime pas mettre énormément d'huile en fait dans mon labné alors que traditionnellement, on le monte comme une mayonnaise.
Et les beaux haricots verts.
Les petits haricots verts
de saison.
Équeutés
par Amélie.
Exactement.
M'évanouir de désir, merci.
C'est très très bon.
Je crois que je vais le manger avec mes mains, vous permettez parce
mais
que je
c'est, ouais, carrément.
J'y arrive pas
allez-y.
En fait.
C'est la meilleure façon.
Je crains que vous entendiez un rugissement.
C'est quoi ce petit croustillon? C'est un pain. C'est un pain simplement.
Un pain toasté au miel. Ouais. Pain toasté au miel.
Ah mais c'est mortel. Mais
miel de graisse aussi. C'est vrai que les produits
c'est
des Balkans.
C'est monstrueusement bon. C'est mortel.
Bon bah je suis.
Il y a un petit côté fumé qui est très très agréable.
Les
aussi.
Amandes fumées. Les amandes fumées.
On parlait du papa d'Amélie Nothomb qui était diplomate. Votre papa était artiste, vous, un artiste reconnu en Roumanie, Cathy.
Oui, tout à fait. Mon père est artiste plasticien et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé de s'enfuir de Roumanie parce qu'il était interdit d'exposition là-bas, hein, parce qu'il était très controversé contre le régime. Voilà. Donc il a décidé de s'exiler à Paris, la capitale de la culture en tout cas à l'époque.
Ça a été difficile de quitter la Roumanie ?
Je pense que oui, quand il y a un déracinement, c'est toujours très compliqué.
Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle dans le fait de faire de vous cet artiste de la cuisine ?
Artiste de la cuisine, je ne sais pas, hein, parce que je me considère plutôt comme un artisan. Oui, je pense que le manque de nourriture hein, qui était évident à Bucarest, je suis arrivée en France, je suis devenue obèse, parce que bon, bah, forcément... Vous
aviez tellement faim.
Ah ben oui, puis on a faim de tout en fait, hein, parce qu'il faut imaginer en fait un monde qui est très gris où il n'y a pas de couleur et en fait on arrive dans un monde dans lequel il y a que du marketing, il y a que de la couleur, il y a que des sneakers, il y a que des Twix, donc effectivement le contraste a été très important.
Ben voilà, c'est ça la table du dimanche, c'est de faire de belles rencontres comme ça et que la parole circule, c'est ça que j'aime. Et justement, c'est l'heure d'accueillir quelqu'un qui aime aussi les mots et les mets même au restaurant, c'est le camarade Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonjour.
Critique gastronomique au Figaro, cofondateur du Fooding, s'il vous plaît. Vous allez jouer au sommelier aujourd'hui, Emmanuel Rubin, pour Amélie Nothomb.
On va partir du côté de la Champagne et vous verrez que ma chronique, elle est un peu demi-brute. Alors ça n'existe pas, il y a le brut et le demi-sec en Champagne. Parce que je vais quand même d'abord vous raconter comment deux siècles après la mort de l'empereur, on a encore perdu avec le Champagne une bataille en Russie, puisque la Russie de Vladimir Poutine a dépossédé les Champenois de leur propre appellation.
Eh bien, dites donc, Champagne, juste après la pause avec Amélie Nothomb et Emmanuel Rubin. Ne bougez pas.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà à la table du dimanche avec Amélie Nothomb. Elle vient nous voir avec Premier sang, très beau roman paru chez Albin Michel. Il faut vraiment le lire si vous n'avez pas encore lu, parce que c'est vrai que c'est un succès, ce roman, comme tous les romans d'Amélie Nothomb. Comment ça se passe, ça, quand on sort un roman et quand on est, entre guillemets, habitué au succès? On a toujours le trac, on a peur que les lecteurs ne soient pas au rendez-vous.
C'est pire à chaque fois. À chaque fois, mon angoisse est encore plus grande que la fois d'avant. J'ai l'impression d'avoir vécu une sublime histoire d'amour qui dure depuis 29 ans, et de me dire « c'est pas possible, là je ne vais plus être aimée ». Là en plus c'est un livre tellement important pour moi, quoi. C'est le livre de mon père, c'est le livre où je raconte mon père. Donc...
Vous parlez de lui à la première personne, vous vous prenez pour votre père.
Je deviens mon
vous
père.
Vous devenez votre père, voilà.
Vous imaginez la force de ce livre pour moi. Alors là, vous imaginez l'angoisse, l'idée que les gens n'aiment pas mon père. Bon, heureusement... C'est pas du tout ce qui se produit. Jusqu'à présent, les gens aiment mon père. Quel bonheur.
Belle preuve d'amour. Nous sommes toujours en cuisine. Hein, ce beau plan de travail bien dressé avec beaucoup d'ingrédients. Cathy Paraskive du restaurant Ibrique à Paris. Il y en a plusieurs des Ibriques. Il y a Ibrique Kitchen, Ibrique Café, Ibrique Deli dans le 10e arrondissement. Vous nous régalez là avec ce beau labné aux haricots, aux figues et puis avec ces petites amandes fumées. Et on va attaquer une polenta que vous allez transformer. Racontez-nous, Cathy.
Le plat de résistance, donc champignons, j'ai pris crème, Paris et pleurote. Et puis, on fait une polenta qu'on va laisser refroidir pour qu'elle puisse bien prendre.
Durcir, figer un peu.
Voilà,
ouais.
Exactement. Et ensuite, on va la nourrir au beurre, au romarin, ail, comme des petits gnocchis.
Alors, on va passer à table avec vous, Emmanuel Rubin et Amélie Nothomb. On prend nos coupes de champagne.
La mienne est déjà désespérément vide.
On va les remplir, je vous promets. Et voilà, on quitte notre cuisine pour aller dans cette salle à manger. Installez-vous, Amélie. Voilà. Alors, on va parler du champagne, un breuvage cher à Amélie Nothomb, Emmanuel Rubin. Le champagne, comme vous le disiez juste avant la pause, qui se retrouve un petit peu concurrencé. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est une drôle d'histoire. Elle est passée un peu inaperçue parce que, bien évidemment, il y avait une actualité qui se bousculait. Mais cet été, au mois de juillet, Vladimir Poutine a décidé que les champagnes exportés en Russie ne pourraient plus s'appeler champagne. Quoi ? Désormais, ils doivent s'étiqueter en vin pétillant, vin à bulles, vin mousseux. Alors, il y a eu une première lutte de la part des maisons champenoises pour dire que ce n'est pas possible. Puis elles ont cédé parce que, quelque part, il faut quand même vendre. Alors, ce n'est pas le plus gros marché d'exportation pour les marques françaises.
Mais c'est les 15e, oui. Ils sont les 15e consommateurs de champagne au monde, les Russes.
En revanche, ils consomment bien et de belles maisons. Et surtout de grandes cuvées. Donc, quantitativement, ce n'est pas beaucoup, mais qualitativement, c'est très important. Le résultat, c'est que l'appellation champagne, eh bien, les champenois n'ont plus le droit de l'utiliser en Russie. Alors, c'est à la fois une manière protectionniste pour Poutine de développer les vins à bulles de Crimée, qui, eux, auront le droit à l'appellation champagne. C'est un peu inquiétant pour la suite, parce que si ça fait jurisprudence, eh bien, le terroir et la marque champagne ne pourra plus être utilisé par nos propres marques. Maintenant, et j'ai appelé beaucoup de maisons de champagne, notamment Dom Pérignon, Mouette, c'est joli l'éducation et les affinités électives entre le peuple russe et la France, car ils ont été bien éduqués au champagne. Et aujourd'hui, pour l'instant, eh bien, ils font parfaitement la différence entre un vin à bulle nommé Bollinger, Dom Pérignon Mouette, et un vin de champagne nommé Crimée. Donc, il faut être un petit peu porteur d'espoir.
C'est un crément de Crimée, un peu.
C'est un crément de Crimée.
C'est ça. C'est énorme.
Alors, savoir que Staline avait tout de même créé, justement, du côté de la Crimée, un champagne qui était un champagne bon marché, parce que déjà, il voulait que son propre peuple soit souverain en la matière. Alors que le champagne, c'est un terroir, c'est des coteaux, c'est des crus. Et d'ailleurs, c'est vrai que le champagne, ces dernières années, a beaucoup bousculé ses codes, avec notamment, et au passage, on en parle, ces champagnes de vignerons. Vous savez que la plupart des maisons de champagne, ce sont des grandes maisons, et à l'origine, c'est une maison de négoce, puisque tous les vignerons, les 14 000 vignerons de champagne viennent vendre leurs raisins aux grandes maisons qui les assemblent. Mais
il y a des vignerons récoltants.
Exactement.
Aussi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, grâce au lycée de formation, lycée agricole, on a appris à ces vignerons à avoir la méthode champenoise. Et donc, ils savent aujourd'hui vinifier. Et ils se sont réunis sous un label qui est Champagne de Vignerons. Et aujourd'hui, ça donne une nouvelle rage, j'allais dire l'itinéraire B, bis de la Champagne, un petit peu ce qui s'est passé entre la haute gastronomie et la bistronomie. Aujourd'hui, tous ces champagnes de vignerons racontent une sorte de champagne un peu différent. Parce que, je l'ai dit, le champagne, c'est de l'assemblage. Pinot noir, pinot meunier, chardonnay. Avec des vins de garde, très complexes. Mais les champagnes de vignerons, comme ils ont des petites appellations, et comme ils ont des petits terrains, ils n'ont pas beaucoup de raisins. Et donc, eux, ils travaillent sur un seul cru de raisin. Ce qui fait qu'on est souvent dans une expression très pure de la montagne de Reims, de la côte des Blancs, vous savez, toutes ces zones qui font le champagne. Donc, on n'est pas dans un vin d'assemblage, mais on est dans un vin un peu monocépage. Et c'est souvent, pour moi, la pureté d'un certain champagne. Je pense à la maison Agrapard, dans ce qu'on appelle
Agrapard. Je suis fanatique de ce champagne.
C'est une expression du chardonnay sur cette fameuse côte des Blancs, dont on dit que c'est l'aristocratie du champagne qui est exceptionnelle. Et c'est vrai que toutes ces maisons-là ont évangélisé un petit peu une nouvelle sorte de champagne. Les Français commencent à vraiment se piquer au jeu. Puis moi, j'espère que les Russes et les restes, eh bien, on refera une campagne de Russie, celle-là, on l'emportera.
Mais je détestais déjà Poutine, mais là, je le déteste encore plus. Hein. Franchement, c'est horrible.
C'est horrible.
C'est vrai que vous venez de le dire, Emmanuel Rubin. Les Russes sont malins et savent faire la différence. Moi, j'ai vu un reportage, on les voit effectivement dans les boutiques. Et pour eux, il n'y a pas du tout de problématique. Ils voient bien que ce faux champagne galvaudé made in Russie, qui est un mousseux, tout simplement. Ils disent, oh, mais non, mais c'est appelé champagne, mais ce n'est pas du vrai champagne. On le sait, le vrai champagne vient de France, alors, quand même. Mais c'est fou qu'on n'ait pas pu protéger ce nom en dehors de nos frontières, quand même.
Non, c'est pas la première fois, mais ce coup-ci, on a perdu. Ça reste une appellation d'origine contrôlée, une appellation de terroir, mais finalement, elle voyage mal. Bon, en plus, quand vous dialoguez avec la Russie de Poutine, vous savez, c'est quand même des décisions très unilatérales. Maintenant, oui, j'en reviens, je suis d'accord avec vous, vraiment. C'est aussi la force du champagne. Bien sûr qu'il y a un terroir, mais aussi des maisons. Et donc, quand on dit Bollinger, quand on dit Mouette, quand on dit Dom Pérignon, eh bien, ça résonne dans l'éducation au goût. Et donc, les Russes ne sont pas dupes, tant mieux.
Vous avez des maisons préférées, Amélie Nothomb ?
Oh, j'en ai tellement. Et en plus, je ne cesse de découvrir de nouveaux champagnes. Vous parliez des champagnes de vignerons. Je viens de découvrir le champagne Jacopé. Mais quelle pure merveille ! Donc, on peut être folle amoureuse de champagne depuis tant de dizaines d'années et découvrir encore des champagnes et retomber amoureuse. C'est pour ça que cette boisson est un véritable enchantement.
Vous venez nous voir avec votre roman Premier sang qui est en hommage à votre papa. Votre papa est responsable, on va dire, malgré lui, de votre amour du champagne.
Oui, parce que donc, il était ambassadeur de Belgique et donc il recevait 1000 personnes par mois et bien sûr, il les recevait bien. Donc il le recevait au Champagne, il l'achetait toujours du Laurent Perrier. Et j'avais 3 ans quand j'ai volé ma première demi-coupe de Laurent Perrier dans un cocktail à la maison. Et ça a été un coup de foudre qui ne s'est jamais démenti.
C'est là que votre carrière, vous dites, de buveuse de demi-coupe
a commencé.
J'adore cette phrase. L'effervescence, Amélie, du champagne, elle aide aux discussions. À propos, tiens, de discussions et de belles tablées, qui sont les invités de votre dîner idéal, tiens, ou de votre déjeuner idéal?
Oh, il y aurait quelques chefs de cave. Richard Geoffroy, l'ancien chef de cave de Dom Pérignon, est un des personnages les plus fascinants que j'ai rencontrés de ma vie, mais aussi des écrivains, comme par exemple Stéphanie Hochet.
Qui va arriver, qui va nous retrouver à table, justement. Donc ce sera un déjeuner idéal qui va devenir, pour
réalité.
Le cours, réalité.
Génial.
Exactement. Et bien, juste après la pause, on revient avec vous aussi, Emmanuel Rubin, et puis on va continuer à vous découvrir. Et on a quelques paroles de nos auditeurs qui ont des choses à vous dire aussi, Amélie Nothomb. On a encore du boulot, hein.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
Bon dimanche, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, toujours avec Amélie Nothomb. En cuisine, Cathy Paraskive qui nous régale avec des gnocchis qui vont bientôt arriver sur cette table, Amélie Nothomb. Je vois vos beaux yeux écarquillés.
J'ai vu Cathy qui préparait ses gnocchis et je suis au bord du supplice tellement je les attends.
Gnocchi de polenta avec une sauce aux champignons, Cathy, c'est ça, hein?
Exactement, oui. Ouais. Ben, on est en bonne route. On est en bonne route. Je suis sur les champignons. Je suis en train de déshydrater les champignons au four, en fait. Ça, c'est ma petite astuce pour les faire dégorger de l'eau.
Et quoi, concentrer leur goût, alors.
Exactement, oui, c'est ça. Et ensuite, on les réhydrate dans la crème, ce qui fait que le champignon, normalement, se nourrit de cette crème. Et, normalement, je dis bien normalement, a en tout cas un côté beaucoup plus concentré en goût.
Et vous allez façonner ces gnocchis de polenta qu'on va pouvoir mettre dans cette belle sauce aux champignons, en fait, c'est ça?
Oui,
la promesse.
Exactement. Donc là, on est justement sur... la préparation de la polenta, on n'hésite pas à bien la faire cuire et à bien remuer.
Amélie Nothomb, on va parler de votre roman Premier sang. Je voudrais qu'on revienne sur ce sentiment de faim, effectivement, parce que c'est très touchant. Votre père perd son papa à l'âge de 8 mois. Il est élevé au départ par sa famille maternelle, mais forcément, il a envie de connaître sa famille paternelle. Donc, sa famille maternelle l'envoie chez les Nothomb, qui habitent dans un grand château, effectivement. Oui. Une famille avec beaucoup d'enfants, une galerie de personnages très singuliers que vous décrivez dans ce livre. Et là, ça rigole pas. On est élevé à la dure, et vous le dites, droit d'aînesse sur les plats qui arrivent.
Hein, le plus âgé se sert en premier. Et les moins de 16 ans, c'est s'il y a quelque chose qui reste. Donc, c'est le darwinisme pur et simple.
C'est fou. Hein.
Le comble étant que mon père, qui avait 6 ans quand il a découvert cette bande de sauvages, s'en est profondément épris, parce qu'il avait enfin une famille, lui qui était tout seul chez ses grands-parents maternels et qui crevait de solitude. Et mon père, c'est ce qu'il détestait le plus au monde, c'était la solitude. De se retrouver tout à coup dans cette tribu avec une multitude d'enfants, même crevant de faim, il trouvait ça absolument...
Et même formidable. Malveillant avec lui, parce que quand il arrive, sa famille maternelle lui met dans sa valise plein de confiseries et de friandises. Et quand il arrive dans le château, il lui pique tous ses friandises.
C'est-à-dire que ce château de crève-la-faim d'aristocrate désargenté voit arriver un petit garçon bien nourri, vêtu d'un petit costume avec un col de dentelle et avec une grosse valise pleine de chocolat et de spéculoos. Alors évidemment, mais il s'est fait étriper. Non seulement toutes ces friandises ont été confisquées, mais il a été la risée de tout le monde parce qu'il était là avec ses petits costumes de dentelle alors que les autres étaient vêtus de haillons. Mais il a surmonté tous ces bizutages, toutes ces humiliations, toute la faim, tout le froid aussi parce que le lieu n'était pas chauffé.
Ah oui, en hiver, on se mettait à plusieurs. Il y a justement une de ses petites cousines qui lui explique qu'il faut se mettre sous la couverture pour ne pas avoir froid. Sinon, on crève vraiment de froid, quoi.
C'est ça. Il y découvre les adaptations à la misère de ce château. Ça se passe pendant les années 40 et 50, mais on se croirait au 19e siècle.
C'est
du Dickens. Voilà, la Belgique des Ardennes belges du milieu du 20e siècle correspond à Dickens un siècle avant.
Amélie Nothomb, vous écrivez beaucoup. J'imagine que vous lisez beaucoup aussi.
Je lis énormément. Je lis autant que j'écris, c'est vous dire.
Quels sont vos derniers romans de prédilection que vous pourriez conseiller à nos auditeurs que vous avez lus?
Alors, dans la rentrée littéraire, j'ai trouvé une pépite. C'est « Mon mari » de Maud Ventura. C'est un premier roman hilarant, extrêmement tordu. C'est un pur délice de lecture. Vous me remercierez si vous lisez « Mon mari ».
Mon mari. Quels sont les trois livres pour vous qu'il faut avoir lu dans sa vie ?
Il faut avoir lu Le coup de grâce de Marguerite Yourcenar, Le pavillon d'or de Mishima et Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde.
Alors, j'en ai lu aucun, donc c'est bien. Voilà, j'ai du boulot.
Emmanuel Rubin,
2/3, joli. J'ai commencé Le portrait de Dorian Gray, c'est vrai. Mais j'étais jeune et je ne suis pas allé au bout, pour tout vous dire.
Eh bien, maintenant que vous n'êtes plus jeune, c'est continuez-le. Ça,
je vous le confirme, je vais m'y remettre, absolument.
C'est l'histoire de jeunesse.
Exactement. Alors, au rayon des biens essentiels, Amélie Nothomb, il y a aussi le cinéma. Vous avez le temps d'y aller au cinéma ?
Si je m'écoutais, si j'en avais le temps, j'irais au cinéma une fois par jour. Je vénère le cinéma. Je déteste voir les films en DVD ou à la télévision. Je ne vois les films que dans les salles obscures.
C'est le grand écran qui vous plaît ?
J'adore. J'adore oublier ma vie dans une salle obscure. Il n'y a que deux possibilités. Soit j'adore le film et c'est le bonheur, soit j'aime pas le film et je m'endors et ça, c'est merveilleux aussi.
Mais vous partez pas avant la fin ?
Je pars de toute façon jamais avant la fin.
Oui, pareil.
Ce qui est dingue, c'est que même quand on s'endort, vous avez remarqué au cinéma, on se réveille quand même quand c'est le générique.
C'est vrai,
c'est
vrai.
C'est hallucinant, tu t'endors et en fait, tu te réveilles au moment où c'est fini.
C'est très vrai.
Vous dites que vous allez au cinéma pour oublier votre vie. Vous voulez fuir quelque chose dans votre vie ? Il y a quelque chose qui...
Écoutez, ma vie est formidable, mais comment vous dire, elle est extrêmement stressante. J'ai une vie épouvantablement stressante.
Voilà, la pression de
la
plaire au lecteur.
Tellement de pression. Puis la pire pression, c'est d'être toujours capable d'écrire. Chaque matin, je me réveille en pensant, mais j'en suis plus capable, mais c'est beaucoup trop difficile pour moi, mais je vais pas y arriver, mais je vais pas. Voilà, mon mot d'ordre, c'est, mais je vais pas y arriver, mais je vais pas y arriver. Au cinéma, j'y pense plus. C'est
ça,
formidable.
Voilà, c'est ça, ça fait oublier. Oui. Bah, vous y arrivez très bien, hein, je vous le confirme, avec Premier sang chez Albin Michel. Très beau roman. J'aime bien le verbatim, d'ailleurs, qui était à la fin. C'est une phrase de votre papa. Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Voilà.
Mon père est un survivant, et un sacré survivant. Il a passé sa vie à survivre. Il a survécu à son enfance, qui était très dure. Et il a survécu à cette incroyable prise d'otage quand il avait 28 ans. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard si je suis la fille d'un survivant.
On va revenir dans un instant avec nos auditeurs qui ont envie de se mettre à table avec vous, Amélie Nothomb. Mais juste avant, on va écouter de la musique. Björk, ça vous plaît, Björk ?
Fan total.
C'est vrai ?
Je vénère la femme, je vénère l'œuvre, j'aime tout de Björk.
On écoute Björk et on revient juste après. Bon dimanche midi, les amis, sur Europe 1. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh. Starts another big riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Soon. C'était Björk sur Europe 1. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Soyez les bienvenus à la table du dimanche. Une cuisine, une salle à manger, comme à la maison. Ça vous plaît l'ambiance, Amélie Nothomb ?
J'adore cette ambiance. Je ne bouge plus, je reste chez vous pour l'éternité.
Jusqu'à midi et demi et jusqu'à l'éternité, on est preneurs. Cathy Paraskiv en cuisine avec des gnocchis de polenta, une belle crème de champignons. J'entends des petits bruits en cuisine, on s'approche un petit peu du dressage, j'ai l'impression.
Presque, ouais, exactement. Je fais réduire la crème de champignons et puis on poêle la polenta et puis on va y aller.
Vous êtes la chef d'Ibrick. Hein. Il y a 3 restaurants Ibrick à Paris, Cathy. On va les rappeler. Il y a Ibrick Deli, Ibrick Café et Ibrick Kitchen.
Kitchen, oui, tout à fait. Vous allez me retrouver davantage à Kitchen, mais oui, c'est ça.
C'est la cuisine des Balkans. Ce grand trait d'union, on le disait, entre le Grand Orient et le Grand Occident. Une cuisine qui est assez méconnue hein, quand on y pense.
En tout cas, en l'état, oui, c'est assez méconnu. Et pourtant, en fait, vous la connaissez indirectement parce que la cuisine turque, vous la connaissez. La cuisine grecque, on la connaît. Un peu moins celle des pays d'ex-Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie. La cuisine italienne aussi, hein, qui s'apparente énormément à la cuisine des Balkans, on la connaît aussi. Donc, quelque part, ce n'est pas si dépaysant, même si les associations de saveurs sont assez inédites.
Oui, une belle connexion de saveurs, on pourrait dire. Tiens, à propos de connexion, Amélie Nothomb, faut être coupé du monde ou ultra connecté pour écrire ?
Alors, je ne sais même pas ce que c'est qu'une connexion. Je n'en ai aucune. Je suis tout à fait d'ancien régime. Je ne possède pas d'ordinateur. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne possède pas de téléphone portable. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas la télé. Je n'ai pas la radio. Je n'ai rien.
Ce n'est pas une légende. C'est vrai, tout ça.
Alors, Stéphanie Yochet, qui viendra tout à l'heure, vous le confirmera. Je n'ai rien.
Et vous n'avez pas de portable. Donc, vous écrivez à la main, vos romans ?
Je fais tout à la main. Quand je vous dis que je suis d'ancien régime, vous ne mesurez pas à quel point c'est vrai.
Donc, pour vous joindre, on vous écrit, en fait.
Oui, et le résultat est que je suis un être infiniment plus joignable que les autres. Je réponds toujours.
C'est ça, et vous répondez. Alors, faut le raconter, enfin, vos lecteurs le savent, hein, vous avez un lien particulier. Moi, je vous ai vu sur des salons du livre avec des gens qui vous attendent et pour lesquels vous avez à chaque fois un mot, des lecteurs dont vous vous souvenez. Et vous avez même des choses très précises, très intimes à leur raconter sur leur vie à eux. Et vous allez dans votre bureau pratiquement tous les jours chez Albin Michel pour répondre à ces
5 jours par semaine, je me rends dans mon bureau aux éditions Albin Michel pour lire mon courrier des lecteurs et y répondre. Ça pourrait être un métier à soi seul parce que ça prend un temps et une énergie phénoménale, mais c'est une tellement belle aventure humaine qui me réserve tellement de surprises, qui me vaut des rencontres tellement formidables que je ne pourrais jamais y renoncer.
Alors votre dernier roman, Premier sang, est consacré à votre papa, diplomate, grand orateur mais pudique, hein, vous le disiez tout à l'heure au début de cette émission. Il aurait fait un bon écrivain, votre papa ?
Non. Je vais vous le dire, il a écrit 2 livres que j'ai lus. Ils sont passionnants, qui racontent des aventures humaines passionnantes, mais dans lesquels il collectionne les erreurs de débutants. Mon père raconte tout. Lui qui ne disait jamais rien, dans son livre, il raconte tout. J'ai toujours envie de lui dire en le lisant, « Papa, non, un écrivain, ça raconte pas tout. L'écrivain, c'est celui qui coupe. » Malraux disait, « Écrire, c'est couper. » C'est tout à fait ça. Hemingway part du principe de l'abstention significative. Mon père ne connaît pas l'abstention significative.
Et il y a un jour où vous avez eu le déclic, vous vous êtes dit justement, je ferai une bonne écrivain.
Non, je ne me suis jamais dit ça, mais j'ai quand même assez vite compris que écrire un livre consistait à ne pas tout raconter. Le bon écrivain est celui qui sait ce qu'il ne faut pas raconter.
C'est comme l'appétit, quoi. Faut donner faim.
Exactement.
Hein, à propos des saveurs de sauge qui commencent à embaumer la salle à manger. Alors, avant de passer au plat de résistance et de recevoir Stéphanie Yochet à cette table, Amélie, on a une petite surprise pour vous. Nous sommes allés voir nos auditeurs sur un marché et on leur a demandé justement quel plat ils aimeraient partager avec vous, Amélie Nothomb. Eh bien, écoutez, parce qu'ils vous imaginent bien en cuisine et à table. Ils ne s'y sont pas trompés.
Comme ça me traverse. Les spaghettis à l'encre de sèche.
Je la vois plutôt épicurienne. Je ferai de la cuisine italienne pour lui faire connaître. En semi-frédo pour le dessert. Une bonne sauce de pâte avec plein de légumes dedans. Je ne parlerai pas forcément de ses romans, même si son dernier est excellent. Son hommage à son père est très beau. J'aimerais parler de la relation qu'elle a avec sa sœur, étant si connue, voilà, comment elle vit ça.
On va recevoir comme invité la romancière Amélie Nothomb.
Ah, Amélie Nothomb, ouais. Moi j'habitais au Japon.
Amélie Nothomb, on a qu'à lui préparer du natto, hein, vous lui direz ça. C'est des haricots fermentés, c'est assez particulier à manger, mais je pense qu'Amélie en a déjà mangé.
Tagine, agneau, abricot. Je sais plus si j'ai mis amande et miel, voilà. Je pense qu'elle est mystérieuse, ça c'est certain, mais je pense que c'est quelqu'un de drôle.
Oh oui, on vous le confirme et on l'entend depuis 11 heures.
Adorable, mais alors le natto, bien sûr que je connais. C'est la seule chose que je n'aime pas dans la cuisine japonaise.
Bah voilà. Et les plats qui vous séduisent de nos auditeurs.
Ah, mais attendez, les plats de cuisine italienne, les tagines, tout ça, je veux absolument les manger.
Votre sœur est auteure culinaire, hein ?
Oui, ma sœur est auteure culinaire, elle est critique gastronomique, chroniqueuse culinaire pour l'équivalent belge de Télérama. Donc, ma sœur est un génie culinaire absolu. Moi, je suis d'une gourmandise hors norme, mais par contre, il suffit que je touche un aliment pour qu'il devienne immangeable. Surtout, ne m'introduisez pas dans votre cuisine.
Vous ne cuisinez jamais ?
Non, et c'est heureux, parce que non seulement je casse tout dans la cuisine, mais ce qui en ressort est parfaitement immangeable.
Même pas un petit œuf à la coque quand même, ça,
alors,
c'est possible.
Alors l'œuf à la coque, à la rigueur.
Vous aimez les œufs, je crois.
J'ai une passion, je suis obsédée par les œufs, mais au dernier degré.
Vous aimez le lapin ?
Pas pour les manger. J'aime beaucoup le lapin comme animal et donc pas comme nourriture.
Bon, bah, je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez bien, qui aime beaucoup les lapins et pareil, qui est l'ami des bêtes, entre autres, c'est Stéphanie Hocher. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Je ne vous présente pas Méline Autombe, hein ?
Non, je crois que je la connais très bien.
Je crois que vous connaissez très bien et je crois que les lecteurs, on va en reparler dans un instant, d'Amélie Nothomb, vous connaissent bien pour plusieurs raisons, Stéphanie Hocher. Vous vous connaissez depuis longtemps, toutes les deux ? Racontez-nous.
On s'est rencontrés le 28 octobre 1998 et on a commencé là ce jour une amitié, 97.
97.
Donc ça fait quoi, ça va faire 24 ans ? Ça va faire 24 ans qu'on se connaît ?
Quelle mémoire !
Oui.
Je parlais du lapin parce que vous sortez dans quelques jours l'éloge du lapin. C'est pas une fable, c'est pas un roman, c'est pas une encyclopédie, mais c'est un petit peu tout ça à la fois autour du lapin.
C'est une ode aux représentations diverses du lapin dans le monde entier, dans le langage, dans notre imaginaire, dans les contes, etc. Et je me suis aperçue que moi qui avais déjà écrit sur le chat, un éloge du chat, je me suis aperçue que le lapin, on le connaissait assez mal. Et je me suis totalement passionnée pour l'animal à travers ça.
Alors Stéphanie Hocher nous a rejoint. Et si vous êtes des lecteurs d'Amélie Nothomb, effectivement, vous la connaissez déjà. De qui s'agit-il ? Eh oui, dans la longue liste des romans d'Amélie Nothomb, eh bien réponse juste après la pause. Bon dimanche, les amis.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous sommes à la table du dimanche en compagnie d'Amélie Nothomb jusqu'à midi et demi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'invité de notre invité est notre invité. Elle nous a rejoint, c'est Stéphanie Hocher, romancière, essayiste, journaliste. Votre dernier livre, Pacifique, aux éditions Rivage, je l'ai entre les mains, est sorti en poche. On va en dire un mot, tiens, de ce beau livre. C'est un roman quand même qui raconte l'histoire d'un kamikaze au Japon et qui a pour mission de s'écraser sur un bateau américain et qui va voir sa mission détournée. Au même moment, il voit sa vie repasser et défiler dans sa tête et sa mission va être détournée parce qu'il y a une avarie technique.
Et on n'en dit pas plus.
Et on n'en dit pas plus, mais pacifique dans plusieurs sens du terme.
Oui, bien sûr, c'est toujours délicat de choisir un titre. Amélie le sait bien. Pacifique, évidemment, on peut penser à la guerre du Pacifique, à l'océan Pacifique. Et puis, le terme, c'est aussi l'adjectif. Et en pleine guerre, le pacifisme, c'est quelque chose qui peut arriver sans qu'on s'y attende. Je vous laisse découvrir le livre.
Si je peux me permettre, Pacifique est le dernier livre qu'ait aimé mon père avant sa mort. Mon père était un dévoreur de livres, un immense lecteur. Et il a lu Pacifique 2 semaines avant de partir. Et il s'est enthousiasmé pour ce livre. Il m'a dit « Je vais parler de ce livre à tout le monde, c'est tellement beau ». Et puis, il n'a pas eu le temps d'en parler. C'est vrai que Pacifique est un immense chef-d'œuvre.
Mais je crois qu'il vous a même écrit une lettre, Stéphanie Hocher.
Il m'a écrit une très, très belle lettre qui m'a vraiment bouleversée. Pour moi, c'était très, très important parce que je savais que je m'adressais à un spécialiste du Japon. Moi, je ne suis pas une spécialiste du Japon et j'ai eu terriblement envie d'écrire cette histoire. Donc, à un moment, j'ai eu l'audace de le faire. Et je me suis plongée dans des recherches, je me suis plongée dans ce tempérament-là. J'y suis parvenue, j'ai énormément douté et je suis arrivée au bout de ce livre avec une espèce de fierté, mais beaucoup de doutes. Alors le fait d'avoir un retour du père d'Amélie, ça a vraiment énormément compté parce que là, c'était un peu le test. Hein. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Et effectivement, pour quelqu'un qui parlait le japonais, qui avait vécu au Japon, qui connaissait parfaitement le tempérament japonais, je crois que j'ai été amplement félicitée et ça m'a fait un bien fou.
C'est une histoire folle, ça. Vous connaissez tous peut-être François Simon, le chroniqueur gastronomique, qui a une véritable passion pour le Japon. D'ailleurs, une de ses premières femmes était japonaise. Et il a longtemps voulu écrire un livre, un roman, qui raconterait l'histoire d'un kamikaze. Il ne l'a jamais fait. Il a écrit d'autres livres qui évoquent... Et c'est comme ça que je suis venu à ce livre-là. Je dis, le livre que François, mon ami, n'a jamais pu écrire.
C'est Stéphanie Hochet qui l'a fait.
Mais voilà. C'est énorme. En plus, moi, j'aime beaucoup François Simon.
Et il a écrit d'autres livres qui abordent ça, mais il n'a pas pu l'écrire.
Mais c'est fou, cette histoire.
Alors, Stéphanie Hochet, je le disais, hein, les lecteurs d'Amélie Nothomb vous connaissent sous un autre pseudonyme, si je puis dire.
C'est Pétroni. Parce que j'ai consacré un livre entier à Stéphanie pour une raison simple, c'est que Stéphanie est un véritable personnage de roman. Et un jour, je me suis dit, pourquoi chercher une autre héroïne de roman qu'elle ? Elle a tout.
C'est quoi un personnage de roman, alors ?
C'est un personnage qui existe plus fort que les autres. Moi, quand j'ai débarqué en France, il y a 24 ans, je ne connaissais pas les autochtones, c'est-à-dire vous, les Français. Et une des premières autochtones que j'ai rencontrées, c'était Stéphanie. Et je me suis dit, mais quel peuple étrange, mais quelles coutumes étranges, quel barbare singulier. Donc, j'ai eu l'idée d'écrire le roman de la première française parisienne. Parce que Stéphanie n'est pas seulement française, elle est profondément parisienne. Mais les parisiennes, ce n'est pas les espèces de coquettes qu'on imagine. Les parisiennes, c'est justement une espèce de femme absolument fascinante qui ont un franc-parler pas possible.
Indépendante,
plus forte que tout, qui n'ont pas leur langue dans leur poche.
Un peu fatigant, parfois.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Et Stéphanie...
On a suffisamment pratiqué pour en parler.
C'est tellement vrai. Stéphanie, c'est exactement cette femme-là. Donc, écrire le roman de Stéphanie, c'était écrire la première parisienne que j'avais rencontrée.
Alors, Stéphanie, vous allez publier début octobre, je le disais, un nouveau livre, L'éloge du lapin, cette ode au lapin. Pourquoi cet animal, alors ? Racontez-nous.
Alors ça, c'est vraiment le hasard. Et alors, quand on m'a demandé d'écrire sur Éloge du chat, je savais de quoi je parlais. J'avais eu des chats et c'est un livre qui avait très bien marché, etc. Et pourquoi Éloge du lapin ? Eh bien, parce que j'avais commencé à écrire des éloges animaliers et puis je me suis sentie un peu plus libre. En fait, je me suis sentie suffisamment encouragée à écrire autre chose. Et puis le lapin est arrivé dans ma vie, complètement par hasard, même par accident, puisqu'un jour, j'habitais dans le 20e arrondissement et j'ai vu que dans le petit troquet en bas de chez moi, il y avait un lapin qui était en mauvais état.
Ouais,
dans une cage
avec une pauvre feuille un peu fatiguée.
Vraiment, et en fait, pendant des mois, je suis passée devant lui et puis j'ai fini par avoir vraiment pitié en me disant « Bon, je ne peux pas laisser cet animal comme ça, etc. » Et finalement, je l'ai adopté et là, j'ai découvert une espèce que je ne connaissais pas. J'ai été emballée, je trouvais que ça communiquait. Je me suis mise à l'observer. J'ai tombé en amitié et j'ai trouvé cet animal tellement passionnant. Et puis c'est un animal qui m'a vraiment passionnée. C'est-à-dire que j'ai vraiment une crise de passion pour cet animal qui est. Celui-ci est mort assez jeune malheureusement. Il avait sans doute été trop maltraité pour ça. Et j'ai eu besoin en fait de me plonger dans cet animal, dans sa représentation. Qu'est-ce que le lapin ? Comment on l'a représenté dans l'art ? Comment les écrivains en ont parlé ?
Dans la Renaissance
Bien sûr, hein. Mais en fait, les traces sont très anciennes. Dans l'Antiquité, on parle du lapin. Dans l'Antiquité grecque, par exemple, le lapin est un symbole amoureux. Les Grecs observent ses petits bonds et trouvent qu'en fait, il est le symbole de la joie. On le relie très rapidement à la Lune. C'est un animal crépusculaire relié à la Lune et dans plusieurs civilisations, en Grèce, mais aussi au Japon. Au Japon, c'est un animal star. Il est iconique au Japon, on le retrouve partout. Et ça nous interroge parce que ça a peuplé le langage. Poser un lapin, courir deux lièvres à la fois, parce qu'évidemment, je parle aussi du lièvre. Alors, les puristes vont me dire, oui, mais alors le lapin ou le lièvre, mais bon, dans les représentations, c'est impossible de définir quoi. Donc, en fait, on ne sait plus. C'est-à-dire que je me suis permis de parler autant du lièvre que du lapin, c'est-à-dire du léporidé.
Et une notion de sexualité qui est attachée quand même au lapin. En plus, c'est l'emblème du magazine Playboy aussi.
L'emblème du magazine Playboy. Alors, je reviens sur cette thématique du magazine Playboy parce qu'il se trouve que ce n'est pas venu tout de suite la représentation du lapin au créateur du magazine Playboy. Ils avaient pensé à un moment au cerf. Et puis, le cerf était en fait l'emblème déjà d'un journal pour la chasse. Donc, ils n'ont pas eu le droit de l'utiliser. Et finalement, le lapin, au final, convenait mieux parce qu'il convenait mieux au lectorat, c'est-à-dire, on va dire, pas très sérieux, avec plusieurs compagnes. Et puis avec ce petit nœud papillon, c'était fringant. Ça permettait aussi de faire un jeu de mots avec les bunnies, etc. Ces jeunes femmes qui sont habillées en lapin, etc. Ouais. Donc c'était polysémique et ça convenait très bien. Et du coup, on l'a retenu. Et puis, de toute façon, qui connaît les lapins, même les chasseurs. J'ai des textes de chasseurs du 18e siècle qui nous racontent la vie sexuelle des lapins. Quand même, ça les a impressionnés. quand même. Hein. Il disait que le cerf à côté des lapins, c'était un petit joueur. Et finalement, le lapin, qui est cet animal qui plaît aux enfants, c'est aussi le plus sexuel des animaux. C'est
vrai.
Ça qui est étrange.
Eh bien, lisez l'éloge du lapin. Et alors, pas de lapin, on vous rassure, hein, au menu. Non. On sait que vous êtes végétarienne. C'est pour ça que Cathy, qui nous retrouve à table, nous a dressé un très, très beau plat végétarien. Et encore une fois, vous nous gâtez avec les yeux, Cathy Paraskive, hein, du restaurant Ibrique. On rappelle la recette. Hein, ce sont des gnocchis de polenta, en jolie forme de cube, avec des champignons par-dessus et une crème de champignons. Hein,
exactement,
c'est ça.
Exactement, oui. Le goût soit condensé, il faut la faire réduire. Donc là, bon, on n'a pas eu beaucoup de temps, donc ça a révélé. Là, pour encore plus de goût, on fait réduire un maximum.
Pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours, rappelez comment on fait des gnocchis avec de la polenta, tiens, Cathy.
Et polenta, donc plutôt classique, hein, donc à l'eau, beurre. Moi, je rajoute un peu de sauge quand même, parce que j'aime bien.
Ah oui, elle est présente. Ouais,
j'aime beaucoup la sauge. Donc, on la laisse bien s'imprégner d'eau, on la fait gonfler, donc, et puis on n'hésite pas à mélanger, hein, pour que, voilà, que elle se gorge d'eau. Ensuite, je la fais refroidir une nuit au réfrigérateur pour que ça prenne. On coupe des petits cubes.
Elle est dense et moelleuse à la fois.
Elle est dense et moelleuse.
Le problème de la polenta, parfois, c'est que ça peut être un petit peu trop dense, un petit peu trop ferme.
Oui, c'est jamais bien réglé, la polenta, sauf chez les bons chefs. Voilà, mais là, avec les champignons, c'est l'automne dans l'assiette.
Ah ouais. Mais c'est l'automne.
Mais c'est divin. Divin. C'est une merveille.
Premier plat d'automne. Merci.
Je m'empêche de pousser des hurlements, là.
Mais ne vous empêchez pas. Ne vous empêchez. Stéphanie Hochet, ça vous plaît?
Absolument délicieux.
Ah oui, c'est bon, ça.
C'est ce qu'il me fallait.
Stéphanie, elle est parisienne. Ça ne la gêne pas.
Vous avez le goût de l'écriture en commun, toutes les deux. Qu'est-ce qui vous réunit aussi? Le champagne, peut-être, non?
Le champagne. Stéphanie est une vraie buveuse de champagne. On adore aller au cinéma et on adore se promener dans Paris ensemble.
C'est ça. On a fait des découvertes, d'ailleurs, pendant le confinement. On allait découvrir l'île de France, faire des balades dans les parcs, etc. Les forêts, forêts de Meudon.
Et puis, je suis désolée, Stéphanie, tu m'as appris à insulter les gens.
Ah oui.
Ça, c'est bien.
Non, mais c'est important.
J'ai compris. Moi, je roule à vélo dans Paris. Et au début, il ne m'arrivait que des catastrophes. Maintenant, j'ai compris que quand il y a un mec qui me dit... « Connasse !» Je dois lui répondre « Imbécile !»
Ah, c'est chic.
Ça va, c'est Amélie. Hein. Ça reste Amélie.
C'est aussi parce que je t'ai observée, Stéphanie.
Qu'est-ce que vous racontez quand vous promenez des auteurs, des écrivaines qui se promènent? Qu'est-ce qu'elles se racontent? Leurs personnages, leurs futurs romans, leurs futures histoires?
Il y a un truc particulier, c'est que moi, je lui parle beaucoup de mes livres, des livres que je suis en train d'écrire, elle, jamais. Hein, mais c'est, Amélie, t'as un mystère. Hein, mais donc, moi, je lui parle de mes romans et de toute façon, on parle de nos lectures aussi. Oui. On a vraiment une passion pour ça. On a la littérature en commun et c'est l'essentiel de notre vie. Donc, ça va être l'écriture et la lecture. Et on parle beaucoup des livres qu'on a lus. Par exemple, mon coup de cœur de tout à l'heure, Sors Chalandon, je l'avais lu, Enfant de salaud, ce très très beau roman de Serge Chalandon, je l'avais lu et je crois que je t'ai donné un petit peu envie de le lire.
C'est toi qui m'as donné envie de le lire et c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. J'adore parler de littérature avec Stéphanie. Stéphanie a son franc-parler. Elle aime ou elle déteste. Dans les deux cas, elle est aussi brillante. Elle prend tout à bras le corps. Il paraît que Dieu vomit les tièdes. Dieu ne vomit pas Stéphanie Hochet.
La table vous réunit aussi toutes les deux. Quel genre de mangeuse vous êtes, Amélie Nothomb?
Compulsive. Et avec Stéphanie, on adore aller chez Aki, rue Sainte-Anne. Et on mange des soba, on mange des okonomiyaki. J'ai converti Stéphanie à la cuisine japonaise. Depuis, on adore manger la
nouilles soba, la farine de sarrasin.
C'est une pure merveille. La cuisine japonaise populaire, c'est une pure merveille.
Et je trouve que ça fait connaître la culture, en fait. La culture japonaise, de connaître leur cuisine. Enfin, vraiment, je veux dire un truc extrême, mais si je n'avais pas connu cette cuisine, peut-être que je n'aurais pas écrit Pacifique.
Mais je crois que c'est vrai.
Eh bien, restez avec nous à table. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Et bravo, merci infiniment, Cathy, de chez Ibrique, pour ce joli plat qui nous régale. C'est l'automne, vous le disiez, mais c'est une belle jonction entre la fin de l'été et le début de l'automne, parce qu'avec cette sauge qui est très florale, justement, très parfumée, on n'est pas dans les saveurs d'automne un petit peu lourdes. Parfois, on est dans une belle fraîcheur aussi avec cette assiette.
Oui, j'aime bien la façon que j'ai de cuisiner. Plutôt, ouais, ça doit rester quand même digeste, pas trop lourd. C'est ce qui me plaît.
On parlait de la cuisine japonaise. Eh bien, ne bougez pas. On y revient avec vous, Emmanuel Rubin, dans un instant. Vous allez jouer à l'avocat de la cuisine japonaise. Mais attention, la vraie, elle a sursauté, Amélie Nothomb. Elle va être attentive, comme nos auditeurs. Bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire. C'est dimanche.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
On est à table, bon appétit si vous l'êtes aussi les amis, c'est la table du dimanche qui nous rassemble, vous l'entendez, on est en train de parler de la belle cuisine végétarienne qui est rassembleuse, comme celle de Cathy du restaurant Ibrique qui nous régale avec sa cuisine des Balkans. Je vous rappelle le plat que nous dégustons avec Amélie Nothomb et Stéphanie Hochet, de beaux gnocchi de polenta avec des champignons qui sont déshydratés pour nourrir une sauce et qui sont mis aussi naturellement entiers par-dessus. On le voit ce plat et on retrouve la recette sur europe1.fr.
Moi je veux me réincarner en champignon déshydraté par Cathy.
Amélie Nothomb, on vous a souvent défini comme excentrique. Vous êtes d'accord avec ça ?
J'ai rien contre, mais je ne me vois pas comme telle parce qu'il me semble que j'ai des aspirations extrêmement normales. Je veux vivre et je veux avoir du plaisir. Est-ce que ce n'est pas notre cas à tous ?
Non, c'est quand vous commencez à parler de réincarnation en champignon, là, c'est vrai qu'on commence à s'interroger.
Mais elle est très expressive, c'est ça que j'aime avec vous, c'est que vous ne trichez pas, vous êtes dans une spontanéité, on s'est vu plusieurs fois, et à chaque fois, vous êtes vraiment là. Vous savez, il y a des gens qui sont à moitié là, et il y en a d'autres qui sont vraiment là. À chaque fois de nos rencontres, vous êtes vraiment là, Mélie Nothomb.
Je crois que ça me vient de mon père, qui était un personnage extrêmement enthousiaste d'une gourmandise hors norme. Et mon père était lui-même un survivant. Il avait survécu à cette tentative d'assassinat, cette prise d'otage, à son enfance de crève-la-faim. Il avait survécu à tellement de choses que mon père était là plus fort que les autres. Et quand il a voulu avoir un troisième enfant, c'était quand il venait de réchapper à son peloton d'exécution. Je suis le troisième enfant.
C'est vous, effectivement.
Et je crois que ça veut dire quelque chose.
Sans cette prise d'otage, vous ne seriez pas là, quelque
Sans
part.
Sans cette prise d'otage, je ne serais pas là. Mon père s'est dit, voilà, j'ai survécu, je veux faire un truc énorme. Et le truc énorme qu'il a fait, c'était moi. Je crois que ça m'a donné une certaine responsabilité.
Vous avez le goût de l'écriture et du champagne en commun, on le disait, Stéphanie Hochet et Amélie Nothomb, mais le goût du Japon aussi. Alors justement, Emmanuel Rubin, le Japon s'invite de plus en plus dans nos assiettes, hein, et souvent à travers les sushis, il faut bien le reconnaître. Une recette galvaudée, loin de la tradition asiatique. Vous avez envie de remettre les pendules à l'heure avec nos deux invités aujourd'hui.
Oui, hein. Alors non seulement j'ai passé un peu la semaine en pensant à Amélie Nothomb, et puis au hasard de mes pérégrinations, j'ai découvert un nouveau restaurant japonais, j'en parlerai, un rare sushi. Et je finis de m'interroger sur comment ce chef-d'œuvre de la cuisine nippone, qui est le sushi, a pu être dans un pays comme la France piqué de goût, aussi dévoyé, rabaissé à hauteur de barquettes de bureaux, de plateaux télé du samedi soir sur la terre. Autant dire, c'est l'anti-sushi.
Pas toujours de la meilleure fraîcheur, même.
Mais c'est non seulement ce sont des poissons mal pêchés, mal tranchés, mais c'est une hérésie. C'est-à-dire que la plupart des Français, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu quasiment un plat national, un plat très urbain, mange des sushis froids. Ce qui est déjà une hérésie.
Parce que ça se mange chaud
Alors,
au Japon.
Vous allez aller dans un tout nouveau restaurant, parce que régulièrement, le Japon dépêche comme ça des maîtres sushis dans des quartiers parisiens. Malheureusement, ces restaurants ne durent pas très très longtemps, mais profitez-en. Celui-ci vient de s'installer dans un quartier qu'on n'attendait pas, c'est les Abbesses du côté de Montmartre. Ça s'appelle Sushi Shunei. Shunei, c'est le nom du chef, et vous allez voir ce qu'est un vrai sushi. Alors, c'est quoi un vrai sushi ? D'abord, c'est un riz assez rond, bien particulier, et toujours servi tiède. Et roulé à la main, pourquoi ? Parce que ça doit prendre la température du corps. Dans la cuisine japonaise, il y a toujours une relation éminente au corps. Et d'ailleurs, une dégustation de sushi, ça va vous faire monter votre appétit à satiété sans que vous vous en rendiez compte. Et il y a toujours ce souci du bien-être, se faire du bon au Japon. Ensuite, un sushi, c'est un wasabi, pas une pâte à modeler. C'est-à-dire une racine qu'on a travaillée vraiment à la minute.
Cousine du réfort, cette racine. Hein.
Exactement. Elle vient coller la chair et légèrement la condimenter, la braser. Et puis arrive l'instant du poisson. Et là, il y a toute une civilisation du geste, du fameux maître sushi, qui va trancher d'abord dans les meilleures chairs du poisson et ensuite le texturer à travers la lame, le salto de la lame. Et un sushi, ça doit fondre en bouche, il est tiède. Et le sushi raconte quelque chose que les gens ne comprennent peut-être pas. Je vais demander à Amélie si elle est d'accord avec moi. C'est que souvent, on pense que la cuisine japonaise est très cérébrale. Elle est cérémoniale, mais très cérébrale, très zen. C'est complètement faux. La cuisine japonaise, à mon sens, et pour avoir parlé quand même avec quelques japonais et japonaises, c'est d'abord une cuisine qui invite la nature à tomber dans l'assiette. Et lorsque vous mangez un sushi, c'est la cuisine de la vague. C'est la cuisine de la mer, la vérité marine qu'on vous raconte. Et d'ailleurs, cette dégustation de sushi qui va durer 16-17 bouchées, c'est d'abord des poissons rouges, le thon, le taureau, puis les poissons blancs, la dorade, puis des poissons qui vous racontent, vous savez, les peaux argentées. La sardine,
les poissons bleus, oui.
Les poissons bleus, et puis aussi bien sûr les gambas. Donc c'est tout ça, ça vous cuisine vraiment la vaille. Et en fait, il faut revenir à un Japon qui veut vraiment vous déposer la nature dans votre assiette. À partir de là, vous allez voir c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et d'ailleurs, c'est Barthes qui, dans L'Emprise des signes, son grand livre sur le Japon, ouvre quasiment pendant 10-20 pages le rapport du japonais à sa cuisine et nous remet un peu les papilles à l'heure. Allez donc chez Sushi Shunei. Franchement, oui, c'est cher. D'abord parce que ce sont des poissons d'exception. Ensuite, il y a un savoir-faire, c'est des années avant de devenir un maître sushi. Mais j'ai calculé. Si vous évitez, pendant une semaine, de manger un mauvais barquette de sushi, vous allez vous en priver pendant 6 semaines. Un mois et demi, c'est pas beaucoup. Eh bien, vous pourrez aller découvrir ce que c'est qu'un vrai sushi. Et c'est comme ça qu'on devient, non pas un expert, mais oui, un gastronome. Et peut-être même un critique. On se construit un palais.
Ça vous parle, Amélie Nothomb ?
Emmanuel, êtes-vous célibataire ? Je vous épouse.
Ah bah moi, oui,
mais
d'accord.
Mais écoutez, parce que c'est tout à fait ça. Le sushi, c'est un acte de foi. Il ne faut pas oublier que le Japon est un pays où on a crevé de faim jusque 1850 et même bien après. Donc, dans un pays de crève-la-faim, on est capable d'un acte de foi tel que de penser que même si on n'a rien à manger, la nourriture va arriver quand même. C'est vrai, le sushi se déguste dans l'instant. C'est le poisson qui arrive jusqu'à vous. C'est vrai, le riz vient à peine d'être cuit, donc il est encore chaud. Et on met ce poisson froid qu'on vient de tuer sur le riz encore chaud. C'est énorme.
C'est une offrande de la nature, hein, c'est ce que vous décrivez.
Quelque part, la conjuration entre le primitif de la chair crue et puis le civilisé, avec celui qui a joué l'intermittent, c'est le chef, avec sa découpe, sa science du poisson, mettez dans cette intelligence entre vraiment le sauvage presque, le poisson cru, et puis l'intelligence humaine, ce qu'on appelle la cuisine. Mais attention, au Japon, c'est assez rare, hein, c'est pas un plat populaire, le sushi. Hein.
Pas du tout.
Vous parliez de la cuisine populaire qu'on peut trouver à Paris, du côté de la rue Sainte-Anne.
C'est les nouilles, le plat populaire du Japon.
Exactement, c'est les ramen, c'est les soba.
Dans les couches populaires du Japon, le riz, mais c'est un plat de fête, le riz est
qui est servi à la fin. D'ailleurs, dans un grand repas japonais, on vous sert un bol de riz à la fin parce que c'est symbole d'offrande et surtout de générosité et d'opulence.
Eh bien, continuons les offrandes. Tiens, pour nos auditeurs, on arrive bientôt à la fin de ce repas. Je suis désolé, ne me regardez pas comme ça, Amélie, ça passe très vite, c'est vrai. Mais c'est parce que vous nous avez bien régalé depuis 11 heures. Avant de se quitter, je voudrais qu'on partage des offrandes et des cadeaux pour les auditeurs. Ça peut être un livre, un spectacle, un roman. Stéphanie Hochet, tiens, une recommandation, un bien essentiel. Tiens, j'aime bien ce terme. On va le remettre au goût du jour. Facile, il n'est pas trop parti non plus.
Oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, le dernier roman de Sorge Chalandon, Enfant de salaud, extraordinaire livre d'une force et même qui va vous mettre très mal à l'aise parce que c'est l'histoire de Sorge Chalandon et de l'histoire de ce qu'il découvre de son père.
Qui s'était passé pour un résistant et qui était...
Qui à la fois se fait passer pour un nazi, à la fois pour un résistant, etc. Et tout ça crée une grande fissure, une grande fragilité chez lui. La vérité va arriver progressivement lors du procès Barbie. Je remercie Sorge Chalandon d'avoir parlé de ça, parce que c'est rare qu'on parle des pères qui sont des salauds, et il faut en parler.
Amélie Nothomb, une recommandation pour nos auditeurs.
Un sublime film japonais qui s'appelle Drive My Car. C'est l'adaptation d'un roman de Haruki Murakami, une adaptation d'un génie absolu. C'est un film qui fait du bien. C'est un film très beau et dont on sort meilleur.
Cathy, vous nous avez régalé avec votre belle cuisine des Balkans. Une recommandation, ça peut être un restaurant, un livre, un film.
Oui, moi j'attends avec impatience la FIAC et j'ai toujours eu en fait cette espèce de recherche entre l'art et l'artisanat et pour
Foire internationale d'art contemporain.
Exactement, hein. Oui, bon, c'est très parisien, mais c'est vrai que j'attends avec impatience parce que je vais avoir l'occasion de cuisiner en fait en collaboration avec un grand artiste, avec David Shirgley justement fin octobre, et donc ce sera une... En quelque sorte, une quasi-performance. Donc,
du 21 au 24 octobre prochain, vous
exactement,
allez faire ça.
Exactement.
Et ben, on viendra se régaler et goûter votre belle cuisine des Balkans que vous délivrez également chez Ibrick. Emmanuel Rubin.
Allez, encore un peu de Paris. Je vous promets, on part en province la semaine prochaine. Une pièce de théâtre. Théâtre de la Contrescarpe, c'est dans le 5e. Ça s'appelle Les Sœurs Tatin et ça raconte l'histoire des Sœurs Tatin qui, vous savez, vont créer la fameuse tarte en se plantant royalement.
En Sologne. Alors,
surtout, la pièce, elle est assez géniale parce qu'elle est écrite à la manière de Tchekhov, à la manière des trois sœurs de Tchekhov. Je vous jure qu'en sortant de là, j'avais envie, un, de manger une tatin, ça c'est sûr, et deux, de relire tout Tchekhov.
Mais c'est trop génial.
Et ben voilà, c'est des nourritures terrestres et des nourritures spirituelles. Merci Cathy de nous avoir régalé. Je signale votre livre, tiens, Ibrick, ma cuisine des Balkans, 100 recettes de Bucarest à Istanbul aux éditions Marabout. Et voilà le dessert qui débarque. Bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce dessert?
Oh, c'est une petite bouchée très légère, comme vous pouvez le voir, à la pistache et rose d'Iran. Et ça, c'est vrai que c'est le best-seller, on va dire. Donc j'ai tenu à finir par une note
là-dessus.
Elle est dans le livre ?
Et la recette n'est pas dans le livre.
Ah, bah voilà, on la déguste, il y en aura d'autres.
Cathy.
Merci infiniment, Méline Autombe, de votre venue dans cette émission.
Je reviendrai, j'écrirai encore des livres pour que vous m'invitiez.
Bah avec plaisir. Vous avez votre ronde serviette, vous le savez. Premier sang, c'est votre roman paru chez Albin Michel. Merci Stéphanie Hochet d'être venue nous parler aussi bien de L'éloge du lapin qui sort chez Rivage d'ici quelques jours. Et puis Pacifique est sorti en poche chez Rivage Poche également. Merci Emmanuel Rubin.
J'ai la bouche pleine.
À la semaine prochaine. Merci à mon équipe du dimanche. David Ordonneau à la rédaction en chef. Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction. Julien Amat à la production. Loïc Vimard à la réalisation. Et Fabien Duchesne à la technique. Voilà, vous connaissez tout le monde comme ça. Bon dimanche à tous. Bonne table. Et dans un instant, c'est Thierry Dagiral pour Europe Midi Week-end. Bon app, les amis.
Oh, ce gâteau.
Alors, ce gâteau.
C'est un côté très, très familial.
C'est très familial, exactement.
J'adore.
J'adore. Ce goût de pistache. C'est pour mourir.
Il y a une humidité que j'aime, moi. Voilà, il n'est pas sec du tout.
Ça me fait loucher tellement c'est bon.